Les entretiens Hypnocafé.
Une session proposée par Charles Jousselin, médecin et philosophe.
Voilà, bonjour Catherine Bernard et merci de me recevoir au CHU Kremlin-Bicêtre.
Oui.
Au Kremlin-Bicêtre d'ailleurs.
Oui, à l'hôpital même. Voilà. Dans un lieu un peu protégé.
Voilà, nous sommes dans un lieu un peu protégé.
Et non pas au bloc opératoire où il y a beaucoup de circulation de personnes. Ça permet.
Vas-y.
Merci beaucoup de cet échange parce que c'est aussi un échange. Donc, j'aime bien témoigner de ma pratique. Donc, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Je travaille à l'hôpital donc de Bicêtre. Je pratique l'anesthésie réanimation plutôt en secteur de neuroanesthésie. Donc, je travaille en neurochirurgie plus particulièrement. Et puis, au cours de ma pratique, je me suis formée à l'hypnose. En fait, c'était dans le cadre d'une demande des chirurgiens qui avait été de développer une prise en charge anesthésique pour des patients qu'ils devaient opérer en neurochirurgie éveillée. Et en fait, c'est dans cette approche initialement qui était plutôt proprement anesthésique et pharmacologique que j'ai voulu me former à l'hypnose. Il y avait déjà un intérêt sur la relation soignant-soigné qui est un peu particulière en anesthésie parce qu'on n'a pas de suivi médical, donc ça s'inscrit dans une temporalité un peu courte mais qui est néanmoins assez importante pour le patient. Et je pense que même si on est dans une prise en charge extrêmement un peu éphémère dans le parcours de soins, je pense que l'approche relationnelle peut être importante à ce moment-là. Et donc là, dans cette chirurgie très particulière où le patient est éveillé pendant l'intervention et finalement va être éveillé très longtemps pour faire des tests neurologiques fonctionnels et guider le chirurgien dans l'exérèse d'une lésion. Donc on est plus souvent dans de la chirurgie lésionnelle, de la neurochirurgie lésionnelle intracérébrale en zone fonctionnelle. Donc le but, c'est de, pour le chirurgien, eh bien de faire une exérèse d'une lésion maximale, hein, donc à but thérapeutique, et tout en étant, les limites de l'exérèse sont fixées par la fonctionnalité neurologique qui peut être altérée par le geste chirurgical. Donc voilà, donc il y a déjà un lien particulier fonctionnel avec le chirurgien, puisque finalement c'est le patient qui guide la main chirurgicale, et le chirurgien va être obligé d'arrêter son geste d'exérèse éventuellement si ça touche à des voies fonctionnelles neurologiques importantes.
J'ai une petite question par rapport à ça.
Ouais.
Est-ce que c'est intéressant, à partir de quel moment le chirurgien qui a souvent, enfin, dans ces situations, des certaines tumeurs sont très difficiles à enlever. Elles peuvent être dans des zones qu'il faut,
oui,
faire attention. Et ça fait longtemps que le chirurgien est en difficulté en se disant, je devrais demander, tester l'endroit où je suis dans le cerveau.
Ça date d'il y a très longtemps.
D'accord.
Oui, ça s'est développé. En fait, il y avait des neurochirurgiens qui, par exemple, ont étudié la fonctionnalité du langage au début du XXe siècle, qui le faisaient déjà en chirurgie éveillée. Dans quelles conditions pour le patient, je ne sais pas. En tout cas, c'est oui, Broca par exemple, puis Penfield l'ont fait, donc ça date de dizaines d'années. La neurochirurgie éveillée moderne s'est développée maintenant il y a plus de 30 ans, je pense, et donc ça s'est développé d'abord aux États-Unis, je crois, et puis il y a un neurochirurgien de la Pitié qui s'était formé aux États-Unis qui s'appelle le professeur Hugues Dufaux, qui est chef de service maintenant à Montpellier, qui a développé en France beaucoup ce type de chirurgie. C'était la volonté des neurochirurgiens de Bicêtre de développer aussi cette chirurgie. Je pense que les indications sont de plus en plus larges, et en fait c'est une chirurgie qui est possible parce que justement le tissu cérébral n'est pas sensible, ce qui veut dire qu'on ne sent rien quand on touche le cerveau, on ne sent rien quand on dissèque le cerveau, et on a bien évidemment pas mal. Voilà. Alors, tout ce qui est la subtilité de l'approche anesthésique, c'est de faire en sorte. Enfin, il y a deux parties très importantes. C'est-à-dire que, bien évidemment, ben, le cuir chevelu, tout ce qui enveloppe le cerveau est sensible, et donc peut être douloureux. Et donc, il faut donc prévoir. Alors, cette étape-là chirurgicale est prise en charge le plus souvent par une anesthésie loco-régionale qui marche assez bien. On connaît les nerfs qui innervent cette partie de la chirurgie. Ce qu'il faut, donc, ça, c'est une première chose. On développe toujours une anesthésie loco-régionale tout à fait puissante et longue pour une chirurgie qui est très longue. Et puis, d'autre part, en fait, c'est ce que j'ai découvert très rapidement, c'est que c'est une chirurgie qui est très très longue, dans une position contrainte pour le patient, puisqu'ils sont sur le côté, et ça dure des heures jusqu'à 10 heures d'intervention, et ils sont contraints à garder en tout cas la tête strictement immobile pour qu'il n'y ait pas de gestes inadaptés du chirurgien. Et donc, en fait, la partie d'inconfort physique est très importante. Et c'est peut-être, si on la prend pas en compte, c'est peut-être la chose la plus importante à prendre en compte
Très bien.
pour que la chirurgie se déroule dans de bonnes conditions pour le patient. Et donc, on est non plus sur. Et classiquement, les anesthésistes font, et certains continuent à le faire de cette manière-là, et bien pour cette prise en compte plus globale, psychocorporelle, on va dire, font une anesthésie légère, donc générale légère, pour ce qui est de l'ouverture chirurgicale, réveillent le malade en cours d'intervention et terminent l'intervention par une nouvelle anesthésie générale. Alors, mon approche a été, comme d'autres maintenant, c'est de développer quelque chose qui ne serait pas médicamenteux d'anesthésie générale, parce que ce qui me paraissait important pour les patients, c'est de pouvoir leur préserver toutes leurs fonctions neurocognitives pour ce qui est du moment où ils devaient complètement éveillés, guider la main chirurgicale. Donc, de façon, plusieurs techniques, disons non médicamenteuses, m'ont paru très importantes. Et puis, ça correspondait bien à mon approche, quelles que soient les conditions chirurgicales, même en anesthésie générale. L'approche relationnelle préopératoire me paraît absolument essentielle pour le bon déroulé chirurgical, y compris de l'anesthésie d'ailleurs. Et donc, et impact, de façon, et ça les études sont très claires, impact l'évolution post-opératoire.
D'accord.
Donc, voilà, j'ai développé des techniques, je me suis formée à quelque chose qui me paraissait évident comme voie d'approche, qui était l'hypnose. Donc, j'ai une formation d'hypnose médicale à l'Institut français d'hypnose. Et ensuite, je me suis formée avec plusieurs, je me suis formée aussi avec un enseignement au DU des pratiques psychocorporelles à Bicêtre. Et puis, j'ai une approche méditative aussi. Et j'ai fait le DU de médecine, méditation et neurosciences de Strasbourg pour compléter ma formation et pour enrichir en fait mon approche de prise en charge de ces patients, en particulier en neurochirurgie éveillée.
Oui, parce qu'avant du tout, alors justement, je t'ai apporté, parce que moi j'avais lu un livre de Patrick de Clercq.
Oui.
Alors Patrick de Clercq, c'est un anthropologue
Ouais.
français qui, moi j'ai beaucoup lu ses écrits, il a fait sa thèse sur les clochards à Paris.
D'accord.
Et c'est un anthropologue qui a fait sa thèse comme ça, et pour explorer, je te dis, c'est juste pour le fun, mais
Oui, oui,
pour
oui.
explorer le milieu des clochards. Il a pris une bouteille de vin, il s'est aspergé de
Oui.
pinard et il s'est mis sur le trottoir.
Ouais.
Et il a attendu qu'on vienne le chercher. Et le SAMU social est passé. Et il a passé quelques heures et quelques jours, très assez peu, je crois, avec les clochards. Et avec chose qu'il décrit dans sa thèse, absolument incroyable. Beaucoup de peur. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de violence. Il a découvert un monde. Il a pénétré un monde que personne ne connaissait. Je dis juste ça parce que, alors, pour terminer sur lui, moi, il a écrit ce livre qui s'appelle Les Naufragés,
D'accord.
que sa thèse, moi, je l'ai lu, il m'a beaucoup aidé lorsque j'ai fait ma thèse de philo. Et puis, il a même tellement exploré ce milieu, qu'il a fait changer quand même des approches sociales de la France sur les... Bon, c'est un autre sujet. Alors, pourquoi
Alors,
je te
c'est
parle
pas
de...
tout à fait un autre sujet,
Enfin,
mais
pourquoi
on...
je te parle de lui? C'est parce
Oui.
que lui, il a eu une tumeur du cerveau.
Oui, d'accord.
Voilà. Et donc, il a
Et il
publié...
a été opéré dans des conditions éveillées.
À Montpellier.
D'accord.
Voilà,
Donc, par
exactement.
Hugues Dufaux.
Et donc, il a fait ce livre, et donc il
Ouais.
a écrit ce livre qui est publié chez Gallimard.
Ouais.
Et donc, c'était en quelle année, je vais te dire. Je sais, c'est quelle année, ça c'est une bonne année, c'est bizarre. Bon, enfin, c'est récent. Attends, je l'ai là.
D'accord, bah c'est une lecture que je...
2016.
D'accord. Donc,
Enfin,
tu
ça.
m'en as parlé un peu avant qu'on se rencontre, mais
Voilà.
je ne le connaissais pas. Mais ce que tu me dis est pas... Enfin,
Je
je
peux te le
trouve...
prêter si tu veux,
Oui,
voilà, tu
volontiers.
verras, voilà, parce
Oui.
que c'est un très bon écrivain quand même.
Alors,
Mais...
pourquoi je trouve que c'est intéressant, même sur le milieu des clochards? Parce que ce que tu me dis, il s'est mis à la place d'eux. Voilà. Et en fait, alors, c'est pas que je veuille... C'est que ça... Pour... En fait, continuer à faire une approche en hypnose, parce qu'en fait, ce que j'ai développé, c'est une approche hypnotique sur le moment qui dure assez longtemps, d'ailleurs, de début d'intervention, qui est l'ouverture du crâne.
D'accord.
Et l'ouverture du crâne, eh bien, c'est un moment extrêmement angoissant. C'est un moment contraignant parce qu'il faut absolument pas bouger la tête, il faut garder la position, et c'est un moment extrêmement angoissant. C'est angoissant pour la signification que ça peut avoir, et on est rappelé à l'ordre par les bruits et par les vibrations et par la représentation qu'on en a, même si le patient ne voit pas ce qui se passe directement. Mais bien évidemment, ça le ramène avec des stimulations sensorielles très fortes à sa condition d'être opéré là maintenant et qu'on lui ouvre le crâne. Donc,
Rien.
ce qui n'est pas rien. Donc, psychologiquement, donc, ce qui m'a pas, c'est extrêmement fort, c'est évident, avec toutes les expériences que j'ai eues avec les patients qui m'ont rapporté leur, qui m'ont beaucoup aidé aussi, et leurs ressources sont incroyables, mais ça m'a paru très important, alors peut-être de pas me, enfin, d'essayer de me mettre à la place d'eux.
D'accord. Voilà.
Voilà, donc on est un petit peu sur la même approche et essayer de me mettre à la place d'eux, eh bien, pour finalement accompagner le prochain malade le mieux possible, eh bien, c'est plusieurs, c'est pas bon, me faire opérer volontairement en chirurgie éveillée, en neurochirurgie, c'était eh bien, développer de l'hypnose qui est aussi une réflexion sur comment on se représente le monde. Enfin, comment, quelle est notre relation avec le monde et comment ensuite, à partir d'informations sensorielles, alors on parle de vagogue facilement en hypnose, mais à partir de cette masse d'informations sensorielles par les différents canaux sensoriels, comment on se représente ce monde, quelle est notre interprétation de ce monde. Et en fait, par exemple, l'approche méditative aussi nous permet de constater qu'on a une approche, et plein plein d'approches nous permettent de constater que sur un monde vécu à un moment T donné, communément, on peut avoir des représentations très différentes. Donc, alors bon, l'hypnose pour la neurochirurgie éveillée, c'était aussi les amener dans un endroit, de se mettre hors de ce temps-là et de ce lieu-là de la chirurgie où ils n'avaient pas besoin de participer, où ils n'ont pas besoin de participer, et c'était de leur permettre d'aller vers un lieu de sécurité, qui est une approche, une technique un peu classique qu'on utilise dans l'anesthésie, et comment je pouvais les amener très loin dans ce lieu de sécurité.
Ça, c'est un détournement de l'attention
Oui, c'est un
dans
détournement de
un...
l'attention et c'est enfin, emmener le patient avec beaucoup de respect quant à ce qui se passe mentalement, mais amener le patient par des voies d'évocation sensorielle. Et en fait, voilà, c'est y a quelque chose qui, enfin, c'est revenir à quelque chose qui est bon. On a un peu le fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire que on a beaucoup d'informations sensorielles qui sont traitées de manière individuelle, un peu différente. On a des canaux sensoriels préférentiels, mais en fait, par exemple, un canal sensoriel comme l'olfaction qui paraît moins important ou moins développé de façon consciente l'est aussi très, de façon très importante. Donc l'olfaction est quelque chose d'un canal sensoriel que je ne néglige pas. Mais à partir de là, comment les gens se représentent, évoquent un souvenir, se représentent un lieu qui leur est familier ou qu'ils imaginent comme un lieu de sécurité.
Donc ça, c'est un accompagnement dans un souvenir agréable, oui, sécurisant.
Oui, voilà, absolument. Et pendant un temps qui est assez long, donc il faut le nourrir et il faut le guider. Voilà. Et puis, pendant un temps qui est assez long, puisque la période de craniotomie dure à peu près une heure.
Ah ben, d'accord.
Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu. Donc la méditation, une approche méditative m'a aussi beaucoup aidée dans cette approche-là. Et puis, il y a une autre réflexion, mais qui est très proche de la méditation ou de l'hypnose. Enfin, on est sur des approches qui sont... Qui ont des similarités, eh bien, je me suis intéressée aussi, j'ai fait une formation. Alors, je l'enseigne un peu sur les cours d'hypnose, c'est-à-dire à une approche neurocognitive qui est développée par des scientifiques français en particulier, dont une qui est très, très importante dans ce qui est l'analyse subjective. C'est-à-dire, donc il y a une neuroscientifique qui s'appelle Claire Petit-Mangin qui développe des méthodes de description de l'expérience subjective de l'autre.
Oh ben ça, c'est très désubjectivant. C'est un vrai défi.
Oui,
Parce que si j'objective quelque chose de subjectif...
c'est un vrai défi. Et justement, entre le subjectif qui est, par exemple, une description, ce qu'ils appellent sur le plan un peu scientifique en première personne, et l'objectif qui est une description en troisième personne... à la troisième personne, eh bien, il développe, ce courant scientifique développe une description en deuxième personne qui utilise des méthodes d'interview, ce qu'ils appellent d'explicitation. Comment on peut faire décrypter à l'autre, voilà, un souvenir, comment on peut faire décrypter au plus proche de l'expérience subjective un souvenir avec des mots. Et c'est... et donc, j'ai suivi une initiation à cette... qui est quelque chose d'assez complexe, mais très, très intéressant, puisque ça nous met très proche de l'expérience subjective de l'autre.
Oui, en tout cas, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Mais de toute façon, si on veut transmettre quelque chose, on est obligé d'objectiver.
Voilà. Donc, c'est espèce de... Parce que les scientifiques qui regardent avec des imageries de plus en plus performantes le fonctionnement cérébral, ils ne peuvent plus maintenant, actuellement, se passer de décrire le subjectif. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas dire, enfin, une image à un temps donné d'un cerveau, d'un sujet... Il se passe beaucoup de choses. C'est pas uniquement faire un geste qu'on va analyser sur le plan de l'imagerie cérébrale, c'est aussi quelles sont les micro-intentions, les micro-pensées qui vont amener à faire ce geste.
Moi qui suis un phénoménologue, je pense que là, vous avez dans une tâche qui est absolument impossible, mais c'est intéressant de partir du fait que c'est impossible.
Oui.
Et donc, comme c'est impossible, je vais essayer quand même d'avancer avec beaucoup de prudence, ça je comprends.
Oui, absolument. Et on va se retrouver sur...
Donc, j'aime bien cette démarche en deuxième personne. Voilà.
Ouais.
Parce que la première personne, c'est la phénoménologue, c'est qu'est-ce que moi, sujet, je perçois du monde en face de moi.
Ouais.
Mais c'est vrai que... Alors moi, je l'utilise beaucoup dans ma pratique.
Ouais.
Mais je ne suis pas chirurgien. Et donc, si je veux en savoir un peu plus, alors effectivement, enfin, je arrive dans l'objectivation, l'objectivation, la désubjectivation.
Oui.
Mais il y a sans doute... d'abord, c'est très vivant.
Ça peut être c'est très dynamique,
voilà,
en plus.
C'est pas
oui,
un
oui.
Jet, c'est vrai.
Oui, c'est,
et
c'est...
donc, c'est intéressant. Je ne connaissais pas cette démarche, mais je trouve ça intéressant. Très intéressant.
Et donc, ça s'appelle l'analyse microcognitive.
D'accord.
Et c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Même si je ne l'ai fait que l'aborder, mais ça m'a vraiment assez fasciné. Et je pense qu'il y a des moyens de l'appliquer en clinique, en fait.
C'est-à-dire que la subjectivité, il y a quelque chose qui était impossible, et l'objectivité, quand on va jusqu'à des images, bah oui, mais ça devient très pauvre. Donc, entre les deux, il y a sans doute une marge d'exploration et de partage.
Voilà.
Parce que là, dès qu'on est dans le partage avec le patient...
Oui.
c'est pareil, on est dans...
Ben, on est dans un lien intersubjectif.
Exactement.
De deux subjectivités. Voilà. Et là, c'est un lien très fort qui s'établit. Et je dois dire que je suis assez émerveillée. Hein. Franchement, à chaque intervention chirurgicale, à chaque approche d'une nouvelle, d'un nouveau patient, en fait, je suis assez émerveillée de ce qui se passe à cette phase-là. En fait, ce qu'on avait discuté un petit peu avant, ce lien intersubjectif très fort pendant une heure de la craniotomie. Où j'essaye d'accompagner les gens dans un lieu de sécurité avec beaucoup de prudence, parce que en leur laissant beaucoup de liberté et en étant très très modeste par rapport à un champ de subjectivité qui ne me sera jamais possible de enfin et puis j'ai mon propre champ de subjectivité.
Alors, c'est ce que je vais te dire, moi ça m'intéresse ce que tu nous racontes là, parce que moi qui suis plongé là-dedans, et enfin, je ne vais pas te raconter mes petites réflexions, mais il y a quelque chose dans l'intersubjectivité qui alors c'est vraiment intersubjectif, c'est-à-dire c'est une rencontre de deux sujets, et c'est ce qui se passe dans les influences de l'un à l'autre, etc., sans cesse, etc. Et donc, toi, l'anesthésiste,
ouais.
Ce n'est pas simplement la subjectivité de l'autre. C'est ta subjectivité rencontrant celle de l'autre avec celle du chirurgien. Enfin, surtout, dans c'est une rencontre. Je n'arrête pas d'écrire que la douleur, en fait, ça n'existe pas. Parce que la douleur, c'est jamais seulement un symptôme. Oui. Mais c'est toujours une personne douloureuse. Et toute la difficulté est qu'est-ce qui se passe entre la personne douloureuse et moi. Et donc, ça, c'est un peu, c'est un peu la même chose.
C'est-à-dire que,
donc, je veux dire, cet accompagnement... Moi, je pense qu'il y a toujours une intersubjectivité, mais quand même, il est quand même dans un contexte très particulier.
Il est dans un contexte très particulier.
Très engageant.
Avec un but, c'est très engageant, et un but qui est dit et bien informé au préalable, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que c'est pour une chirurgie où ils vont participer, ils savent parfaitement ce qui va être réalisé. Donc, et alors, ce qui m'étonne toujours, et c'est ce que je t'avais dit, c'est-à-dire que on va étudier le cerveau des gens sous hypnose beaucoup, on n'étudie jamais le cerveau des gens qui accompagnent en hypnose. Et c'est quelque chose qui est assez fascinant.
Oui, c'est ce que tu dis.
Et en fait, c'est vrai que pour ma propre expérience, il y a eu des moments très très forts avec certains patients. Et des fois, alors même si, par exemple, ce que je t'avais dit, c'est-à-dire qu'il y a une patiente qui, ça a duré très très longtemps, et en particulier la craniotomie et son lieu de sécurité qu'elle avait choisi, qu'on avait un peu, non pas construit, mais qu'on avait évoqué ensemble, eh bien c'était un endroit de vacances, enfin, qu'elle retrouvait chaque année en famille en Lozère. Donc je ne suis jamais allée en Lozère, mais il y a un moment je me suis un petit peu intéressée à la Lozère, le lieu, la végétation, les reliefs. Bon, c'est quelque chose qui parle à chacun de nous, je pense, qui n'est pas difficile. Et en fait, je crois que ce moment-là, qui a été très long, pour permettre au chirurgien d'arriver à la lésion, en fait, intracérébrale, ce moment qui a été très long, je crois que je l'ai vécu, je crois que je connais un peu la Lozère, en fait.
Très bien.
Et donc, c'est cette espèce d'étonnement, et bon, il y a plein de lieux que j'ai découvert grâce à eux, que je connais un peu avec ma propre subjectivité.
Très bien. Alors ça, c'est la première heure, finalement. Il y a encore 9 heures.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe après le patient?
Alors, le patient, on revient, voilà. Et puis, donc, sortie de transe prudente. Mais on a un peu travaillé. C'est les consultations d'anesthésie, cette fois-ci. Moi, j'en fais 2 ou 3 avant l'intervention. Le but, c'est d'informer vraiment de ce qui va se passer.
Oui.
D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'étonnement. Ils savent pourquoi, enfin, quel est le but de cette chirurgie dans ces conditions-là. Mais de les informer sur le plan des contraintes et du déroulé, à la fois en termes de temporalité, de spatialité et de la contrainte corporelle,
C'est une question que je vais te poser. Est-ce qu'il y a une préparation? Oui. Pour qu'ils soient parfaitement informés du déroulé.
Mais on se le représente un peu comme au théâtre. C'est-à-dire que pour un enfant qu'on a pris en charge, on avait fait vraiment un peu... On était allé dans un bloc opératoire. On s'était représenté la chirurgie. avec cet enfant de 9 ans qui avait plutôt cet âge mental. Et c'est, je pense, comme ça qu'on avait... Donc, c'était une forme de préparation mentale, comme des grands sportifs pourraient faire sur une course ou comme des virtuoses d'autres spécialités ou de spécialités musicales se représentent et s'entraînent mentalement à cette représentation-là. Et donc, ce champ de représentation... Donc, qui est qui est influencé par chacun et qui est propre à chacun selon sa propre subjectivité, c'est quelque chose qui me passionne et qui est vraiment très, très fascinant. Et donc, oui, il y a ce moment-là très particulier où je découvre la Lozère, je découvre d'autres façons. Enfin, des fois, j'ai redécouvert les dessins de Tintin et Milou, puisque c'était un thème qui m'avait été évoqué. Et puis des choses plus simples qui m'avaient été évoquées, comme le moment pour un jeune patient dont qu'on a rediscuté il n'y a pas si longtemps, qui avait été, lui, son choix, c'était le moment où il sortait du travail assez tard et il rentrait chez lui. Il habitait au 5e étage, c'était quelqu'un de très gourmand, donc plutôt olfactif. Et son truc, c'était ce qui était déjà très original, c'était... Et de choses qu'il aimait particulièrement faire quotidiennement, c'est de monter à pied les 5 étages pour deviner ce que son épouse avait fait comme repas. Et donc, en fait, c'est ce qu'on avait choisi pour ce moment-là. Et je pense que ça, je l'ai un peu vécu aussi. La montée des 5 étages, je crois que je l'ai un peu vécu.
Et alors, donc, dans toutes les heures qui suivent après, donc le patient, tu es quand même toujours là, bien sûr, tu l'accompagnes. Mais il doit être moins en hypnose. Enfin, il y a un dialogue après.
Oui. Alors, on est hors transhypnotique cette fois-là. Et c'est un engagement sur des tests neurofonctionnels qui sont guidés soit par un neuropsychologue, soit le plus souvent un ou une orthophoniste. Parce que assez souvent, ça concerne les zones de langage. Donc, le rôle de l'orthophoniste est très important. D'accord. Et donc, pendant des heures, on fait des tests neurofonctionnels répétitifs et le chirurgien débute la lésion et continue l'exérèse de la lésion sous couvert de tests neurofonctionnels.
Et ça peut durer des heures.
Et ça peut durer des heures.
Et ça dure des heures.
Et ça dure des heures.
Et alors, la fin de l'intervention ?
La fin de l'intervention, eh bien, donc c'est la fin où on ferme la cicatrice, en fait. Je parle de cicatrice. Et là, il n'y a plus de participation au geste chirurgical qui est demandé par le patient. D'accord. Alors, souvent, ils sont extrêmement fatigués parce que c'est extrêmement fatigant de faire des choses répétées dans un contexte de stress. Et donc, je les raccompagne en hypnose pour s'extraire un peu de ce temps de cicatrice et de fermeture de la chirurgie.
Oui, c'est sûrement... j'ai pensé à une chose quand tu disais ça. Il y a un événement, ce qu'on appelle ça, un événement. C'est-à-dire qu'on ne doit plus être le même après.
Je veux dire,
passer 10 heures sur une table d'opération avec quelqu'un qui m'a enlevé quelque chose de mon cerveau, et en plus, même cette épreuve, ce chemin ensemble, on ne doit plus être tout à fait le même.
Oui. Alors, il y avait eu un article, je crois, dans Le Point, qui avait été fait il y a 5-6 ans, qui était assez intéressant, en soi, qui reprenait, en fait, des témoignages de patients pour cette chirurgie-là. Et la journaliste avait bien compris à quel point, est-ce que je retrouve, à quel point certains et la plupart sont fiers de l'avoir fait.
Ah bah, ils peuvent.
Oui. Mais à chaque fois, je me dis, ils peuvent. Et quand je les félicite réellement à la fin, je le pense réellement, je suis toujours impressionnée des ressources des patients. Alors, il faut sans doute les aider à les révéler, mais je suis impressionnée des ressources des patients. Et je trouve que, oui, ils peuvent être fiers passé cette étape de la chirurgie.
Très bien, très bien. Bon, c'est... Donc, en fait, pour être un peu, pas provocateur du tout, mais en fait, on voit bien que ce qui est majeur, au-delà de l'accompagnement qu'on apprend tous, finalement, en hypnose, qui est assez simple, alors après, comment le mettre en œuvre ? D'abord, il y a la façon de le mettre en œuvre. Après, c'est toi qui le mets en œuvre. Donc, c'est dans cette rencontre entre deux personnes. Mais il y a aussi, quand même, le contexte. qui favorise considérablement, enfin, ou pas, mais enfin, probablement qui favorise le fait que ça puisse se fonctionner. C'est-à-dire que, ce que je vais le dire autrement, tu ne fais rien de très compliqué, sauf que c'est un engagement entre toi et le patient, et le chirurgien, et qu'il y a une façon d'être ensemble qui fonctionne. Mais sur le techniquement, il n'y a rien de très compliqué, sinon il faut être là. Et donc, voilà, c'est une épreuve aussi pour tous, hein, en tout cas, voilà. Et c'est très, très intéressant, très intéressant. C'est ce que j'explique parfois, c'est que, en fait, il y a des circonstances qui font que l'hypnose, accompagner quelqu'un en hypnose est difficile, et pour de multiples raisons, etc. Parfois, les résistants, je ne sais pas si on devient un peu résistant, mais je pense que la résistance, elle est plutôt due, pas tellement au patient, mais à celui qui l'accompagne. Mais il y a des circonstances, au contraire, où s'accompagner d'une hypnose est assez facile, ouais. À la condition de ne pas être allé trop vite. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de fait, c'est du café. Je rencontre quelqu'un,
oui.
Je l'accompagne, je lui explique dans un contexte très particulier,
oui.
Aussi incroyable, oui. Que cette histoire de,
oui.
D'avoir le crâne ouvert et on, oui. M'enlève un, oui. Truc de crâne.
Oui.
Et c'est possible, parce que je crois que c'est très porté par cette intervention et que c'est l'intérêt de tout le monde que ça fonctionne.
Oui. Oui.
Mais si la technique en elle-même peut paraître simple, la mettre en œuvre n'est pas si simple dans la simplicité. Enfin, je veux dire au sens que c'est un véritable engagement.
C'est un engagement, voilà. Oui, ça c'est juste. Oui, c'est ça, c'est oui, oui. Alors, alliance, c'est pas un mauvais terme, je
bien
trouve.
Sûr,
c'est vraiment alliance thérapeutique, je trouve bien que sûr. C'est un joli terme. C'est, oui, c'est une rencontre, c'est un lien. C'est un lien très, très particulier, bon. Et très fort à ce moment chirurgical, avec beaucoup de modestie et de respect, hein, ouais. De l'autre. Ouais, mais c'est des moments très forts. Une des patientes m'a dit merci de m'avoir transporté ailleurs. C'était vraiment un remerciement qui m'avait touché énormément et qui était très bien expliqué. Et je le reprends de temps en temps, je le redis. Merci de m'avoir transporté ailleurs. Nous deux seulement pouvons comprendre. Donc voilà, ce moment très, très particulier, qui est un moment sur l'étape de la guérison, sur une lésion qui peut être...
Nous deux seulement pouvons comprendre. Effectivement, vous avez fait une expérience intersubjective humaine qui est singulière.
Voilà.
Deux singularités se sont rencontrées et ont créé une expérience tout à fait singulière. Je suis là, etc. Et donc ça, c'est irreproductible, c'est indescriptible, voilà, et c'est potentiellement blessant, mais dans l'occurrence, comme toute rencontre. Mais là, ouais, c'est tout à fait étonnant, tout à fait étonnant. Donc en fait... si la technique n'est pas très compliquée, il faut quand même soit la mettre en œuvre, et donc il faut bien, bon, ça ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain, tu anesthésies depuis longtemps, etc. etc. Bon, enfin voilà, il y a en tout cas quelque chose de tout à fait intéressant.
Il y a quelque chose qui m'est redit, parce que,
oui.
Alors effectivement, oui, technique strictement hypnotique n'est pas très compliquée en,
oui.
Fait. Alors quelque chose qui est souvent, qui revient, et c'est assez marrant, de la part des patients, donc souvent je vais les revoir en fin de journée avant de quitter l'hôpital, ou des fois je suis de garde, donc je vais les revoir encore plus tard, et ils me disent mais vous devez être fatigué.
Alors est-ce que tu es fatigué?
Oui, c'est très engageant.
Oui,
mais à la fois, voilà, il y a une satisfaction très forte.
Ouais.
Et puis à chaque fois à chaque fois des choses nouvelles qui se passent, et puis c'est très très, ouais, c'est des fois très émouvant.
Ah oui, sans doute. Je vais être un peu. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans la médecine aujourd'hui, c'est qu'elle est de plus en plus technique et de plus en plus déshumanisante.
Oui.
D'ailleurs, on est dans les indices, on est dans les images, on,
oui.
A les chiffres,
oui.
et les malades sont plus égouttés, plus,
oui.
examinés,
oui.
Enfin voilà,
oui.
J'exagère évidemment, mais enfin quand même, c'est ce qui se passe.
Oui.
Alors bien sûr, on a sélectionné les médecins par des QCM,
oui.
Donc,
oui.
par des
oui.
Comment dirais-je, bon, pareil, enfin c'est à mon avis d'une médiocrité incroyable. Donc ce monde médical moderne, voilà, est en train, avec des résultats tout à fait triomphants, hein, sur la technique, mais quand même, il y a quelque chose qui, je trouve, se déshumanise, et le monde médical s'en aperçoit, d'ailleurs, pour l'instant, ils ne savent pas très bien quoi faire. Voilà. Ce qui est intéressant dans cette histoire, j'ai envie de te dire ça, c'est que les neurologues, c'est étonnant, c'est-à-dire que, je pourrais le dire autrement, autant aujourd'hui la technique tend à déshumaniser le soin, autant là, dans cette technique, et vous êtes, enfin, les neurochirurgiens sont obligés de faire une alliance
Oui, oui,
et
oui,
ça, c'est quand même un paradoxe tout à
oui,
fait formidable,
oui.
c'est-à-dire que leur boulot est beaucoup mieux fait
Oui,
avec l'alliance
exactement,
d'autrui, alors
exactement.
qu'autrui est
Et
souvent
à
mis de
la limite,
côté
leur boulot est.
auparavant.
Oui, absolument.
Et c'est intéressant.
Oui, c'est absolument. Oui, c'est tout à fait. C'est ce en quoi c'est une technique et pas qu'une technique, quoi.
Non,
C'est
voilà.
vraiment. Et moi, je trouve que c'est très rassurant.
Oui.
Et je dirais aussi, du côté anesthésique, où on n'est pas dans une approche curative, c'est-à-dire que c'est le chirurgien qui a cette approche thérapeutique
Oui.
curative. Mais ce qui me fascine un peu en anesthésie-réanimation, sur l'évolution, et heureusement j'ai des jeunes collègues qui s'inscrivent de plus en plus, médecins qui s'inscrivent de plus en plus à des formations d'hypnose,
Oui.
c'est qu'on est une spécialité, on n'est pas dans une approche curative directement, on est une approche très médicamenteuse. On a une approche très technique. Et pourtant, c'est en anesthésie que se développe le plus une approche hypnotique relationnelle.
Eh oui,
Et
parce
ça,
que...
c'est quand même. Enfin, c'est. Enfin, c'est. Je la comprends, c'est pas perturbant, mais ça donne beaucoup d'espoir sur les autres spécialités, en
Exactement.
fait.
Parce que je reprends cet exemple-là. Par exemple, on aurait pu se dire, dans le fond, le malade, on a des images formidables,
Oui,
des IRM
oui,
incroyables,
oui.
et on peut faire ça, on pourrait opérer finalement que des images du
Oui,
cerveau. Et
oui.
bien on s'aperçoit, pour être plus
Oui.
efficace, il faut
Oui.
aller au-delà de l'image, ou
Oui.
plutôt avant
Oui.
l'image, et se faire
Oui.
cette alliance
Oui,
avec le sujet
absolument.
et toute sa subjectivité,
Oui.
parce que quand le chirurgien pose des questions, il y a quand même tous ces... je ne connais pas les tests, mais il y a toujours... Enfin, c'est pas carré non plus.
Oui.
C'est la personne à qui on demande de faire
Oui.
des tests, la personne qui les
Oui.
évalue. Enfin,
Oui.
on est au cœur de la
Absolument. Oui,
subjectivité. C'est
absolument.
extraordinaire
Oui.
quand même. Hein.
Oui.
Alors qu'on a une
Oui. Oui.
hypertexticité
Oui.
avant,
Oui.
après,
Oui.
puis après, quand il faut faire
Oui.
bien son
Oui.
boulot, on est obligé finalement
Oui.
de dialoguer avec
Oui.
le malade. C'est
Oui.
formidable.
Et je pense, sur la partie anesthésique, eh bien, je pense que l'évolution sera de prise en charge de plus en plus en chirurgie éveillée, c'est-à-dire de plus en plus avec un support d'anesthésie loco-régionale, le patient éveillé. Donc, notre rôle d'anesthésiste va être une approche relationnelle forte pour que le sujet puisse accepter et bien supporter l'intervention chirurgicale complètement éveillée. Et donc, toute l'approche relationnelle va être très très importante. Et ça, c'est un vrai développement moderne. Et on va devoir diminuer de plus en plus notre approche d'anesthésie générale. C'est évident, il y a plein d'études qui le montrent. De plus en plus, il va falloir être de moins en moins médicamenteux dans notre approche anesthésique et de plus en plus développer une chirurgie qui sera sous anesthésie loco-régionale, certes, mais éveillée.
Bah, c'est ce que je prétends, hein, parce que moi, je me suis occupé beaucoup de la douleur. Je pense que tant que la douleur restera un symptôme, tant qu'elle restera une expérience, eh ben non, on ne soigne pas une expérience, on ne soigne pas un symptôme. En revanche, quand on s'intéresse à l'autre douloureux en face de soi, ça n'enlève pas toutes les techniques qu'on va utiliser, les
Bien
mêmes,
sûr.
sauf qu'elles vont être beaucoup mieux adaptées
Oui.
parce qu'on aura
Oui.
rencontré l'autre, on aura fait
Oui.
une expérience
Oui.
subjective. Qu'est-ce que je ressens moi face de
Oui.
l'autre et qu'est-ce que nous faisons ensemble dans
Oui.
cette alliance, hein.
Oui.
Je pense que l'avenir, enfin moi je parle un peu de moi là, pour dire que je pense que l'avenir de la médecine, ce n'est sûrement pas l'objectivation maximale,
Non.
c'est
Oui. Oui. Oui.
l'alliance de la technique
Absolument.
avec le sujet.
Mais
Et
c'est...
le sujet, c'est le malade, mais ceci est le
Oui.
médecin.
Mais ça, c'est enfin, en anesthésie, même si ce qui
C'est
paraît, c'est évident.
en train de bouger,
Ouais, c'est en train de bouger, c'est
oui.
évident.
Oui.
Une médecine personnalisée en anesthésie, on sait maintenant, c'est
Voilà.
le progrès qu'on peut apporter.
Alors, faut se méfier parce qu'une médecine personnalisée, pour les cancérologues, c'est en fonction du génome.
Oui, non,
Alors,
non, mais...
voilà, donc les
Oui,
mauves.
oui, 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 oui. enfin personnalisé,
oui, voilà.
À la personne.
Voilà.
Revenons à la subjectivité,
oui,
à la personne.
C'est quand même une bonne idée.
Oui.
C'est quand même toujours un sujet qu'on soit. Oh, super. En tout cas, merci, c'était très intéressant. Est-ce que tu voudrais, je ne sais pas, rajouter quelque chose? Moi, je trouve ton expérience tout à fait, comment dirais-je, formidable au sens de. Oui, c'est formidable au sens de justement, c'est, moi c'est ça qui m'a interpellé, c'est cette alliance indispensable et qui apporte la qualité avec l'autre. Voilà. Et en plus, alors, par exemple, toi, le chirurgien, ça ne doit pas être si simple non plus. Le chirurgien, parce que toi, tu es là à côté, il parle avec le patient, le neuropsychologue, enfin, il y a quand même quelque chose qui n'est pas simplement entre toi et le patient, mais entre tous les acteurs. Et
bien sûr, oui, c'est un travail d'équipe, bien
oui,
sûr.
Oui, voilà.
Oui, absolument.
Chacun a sa part, donc c'est la coopération.
Oui, absolument.
Et cette coopération passe par le partage des acteurs et du malade.
Oui. Et par la participation active du patient.
Voilà.
Et donc ça, c'est... voilà, le, je dirais le pendant à une médecine plus adaptée et le progrès sera de respecter la subjectivité de l'autre et du patient en particulier et puis de lui laisser un rôle actif, participatif à son soin. Je crois que ça, c'est... c'est quelque chose de très, très important.
Voilà, se méfier de la performance, mais tout ça, ça se fait ensemble. Oui, c'est formidable. Là. C'est, donc, on est au cœur de la neurochirurgie. On a l'impression que c'est extrêmement technique et qu'on pourrait tout faire avec des images de neurosciences extraordinaires.
Ça l'est extrêmement technique. L'est. Comme en anesthésie, ça l'est extrêmement technique.
Bien sûr, oui. Faut
mais ça ne peut pas se résumer à une technicité.
Oui, c'est ce que disait Paul Ricoeur. Hein. C'est-à-dire qu'une technique aussi savante soit-elle...
Oui.
Elle est quand même au service d'un sujet qui s'adresse à un autre sujet. Donc, méfions-nous de des subjectifs et tout ça.
Oui.
Mais le chirurgien, j'ai un copain qui a fait une thèse sur le chirurgien, l'objectivation du malade. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien que le chirurgien, quand il opère quelqu'un, il opère un crâne et non pas la personne.
Oui.
Mais en fait, il fait comme si.
Oui,
mais en
exactement.
Réalité,
c'est ça.
Il sait bien, c'est comme. Donc, il est obligé pour faire son geste.
Oui.
Il est obligé, mais en réalité, il ne peut pas le faire entièrement parce qu'il fait comme si, parce qu'il sait que c'est pas.
Exactement.
C'est
non, mais ça c'est très important c'est très. Enfin, je dirais que pour nous anesthésistes, c'est très important de comprendre la difficulté chirurgicale.
Oui, bien sûr,
parce que c'est quand même, ce n'est pas rien d'ouvrir un corps. Ce n'est pas rien. Et je pense,
particulièrement
un crâne. Mais et donc il y avait un patient qui m'avait dit le crâne c'est ciel mais c'est le dernier endroit qui renferme mes secrets sa grande angoisse tenait au fait qu'on allait ouvrir le dernier endroit qui contenait ses secrets. Et donc, comme si l'ouverture de l'os du crâne allait faire s'échapper.
Mais c'est vrai qu'on a quand même dans l'imaginaire collectif.
C'est une représentation.
Une opération, on enlève celui qui ne va pas dans le crâne et les choses vont aller. Le problème, c'est d'aller dans le crâne.
Mais pour revenir au chirurgien, oui, mais ça, c'est quelque chose. Je pense que c'est une vraie pratique. Pas si simple du chirurgien d'être au bloc opératoire, d'opérer un corps et pour bien l'opérer et gérer son stress, il faut aussi qu'il mette de côté à un moment donné la personne tout en ayant en ayant cette considération de la personne. Donc c'est un jeu de rôle où c'est quelque chose de très particulier et qui peut correspondre à des difficultés vraiment.
D'accord. Alors pour terminer, tu as quand même dit deux choses intéressantes, j'ai trouvé, c'est que j'entends pas souvent, c'est que tu parles de l'hypnose, tu t'es formé à l'hypnose, mais tu as dit plusieurs fois que ouais, ça c'est bien, mais c'est pas mal d'associer aussi autre chose, la méditation, etc. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, tu t'occupes un peu de toi. Quel intérêt éventuellement à faire plus que de l'hypnose ou à associer d'autres choses?
Non, mais c'était. Mais l'hypnose, enfin, premièrement, c'était aussi. Ça répondait à une certaine curiosité de ma part, mais la curiosité s'est encore plus ouverte avec ma formation en hypnose. Je crois que ça ouvre un champ Oui, ça ouvre un champ de connaissances ou de nouvelles connaissances à acquérir. Et effectivement, je me suis intéressée à la méditation, mais on est sur des pratiques qui sont relativement proches, même s'il y a des différences. Ce qui m'intéressait vraiment, oui, c'est ce rapport à la réalité. Alors, il y a quelqu'un que j'aime bien aussi évoquer, aussi en cours d'hypnose d'ailleurs, c'est Alexandra Davinel, bouddhiste tibétaine, spécialiste du bouddhisme tibétain, qui a écrit de nombreux ouvrages, qui transmet bien toute sa formation. Et en fait, dans le bouddhisme tibétain, il y a une approche du réel qui est très intéressante. Et je dirais que à chaque fois en cours d'hypnose, je conseille aux étudiants de lire les enseignements secrets des bouddhistes tibétains d'Alexandra Davinel. Parce que c'est très simple à lire et que c'est très phénoménologique, justement. Et le bouddhisme tibétain a développé une approche psychologique, empirique, très phénoménologique. Et l'approche méditative dans le bouddhisme tibétain, c'est se mettre en contact avec deux réalités. D'une part, la réalité du pur contact, c'est-à-dire ce qui est information sensorielle sans transformation par des processus mentaux supplémentaires, et l'autre réalité qui sont tout le champ, qui est tout le champ de nos représentations.
Eh oui.
Voilà. Et en fait, donc moi je vous proposerai la lecture d'Alexandra Davinel aussi, parce que ça correspond vraiment, ça résonne beaucoup avec l'hypnose, ça résonne forcément et c'est construit sur l'approche méditative, mais ça résonne beaucoup avec l'hypnose.
En tout cas, un grand merci, Catherine.
Merci beaucoup.